Pour Xi Jinping, aucun doute possible. Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Il l'a redit samedi, ravivant les tensions avec la province considérée comme rebelle.
La séparation de Taïwan est le plus grand obstacle à la réunification de la mère patrie. La réunification se fera. Nous adhérons aux principes fondamentaux d'une réunification pacifique.
Dans la foule, des Taïwanais craignent la mainmise du pouvoir chinois sur leur île, à l'image de ce qui s'est passé à Hong Kong. Les dernières semaines, les avions militaires chinois ont même multiplié les incursions dans le ciel de Taïwan, au point d'inquiéter les États-Unis.
Nous sommes très préoccupés par les activités militaires provocatrices de la Chine près de Taïwan. Nous exhortons donc vivement Pékin à cesser ses pressions et ses coercitions militaires, diplomatiques et économiques.
Alors jusqu'où Xi Jinping peut-il aller? Les provocations militaires peuvent-elles virer au conflit ouvert? La présidente de Taïwan peut-elle s'opposer à la détermination et au rêve de grandeur de Pékin?
Alors effectivement, c'est plus de 600 avions et c'était 380 l'année dernière. Donc ça s'intensifie. On a l'impression que c'est quand même relativement bien organisé, bien planifié, à des dates bien précises. 1er octobre, fête nationale, avant la fête nationale taïwanaise, mais aussi chinoise, du 10 octobre. Mais c'est la multiplication et l'intensité. Moi, ce qui m'inquiète en réalité, c'est que plus vous avez d'incursions, plus vous avez d'avions, plus le risque de dérapage, plus le risque... À chaque fois que les avions passent, vous avez la défense aérienne taïwanaise qui décolle, qui surveille, qui gère cette incursion, et vous pouvez avoir des dérapages. Et dans l'air, c'est encore plus, je dirais, plus facile. À la limite, ça va plus vite que sur la mer.
Un dérapage de quel type, pardon, pour bien comprendre? Qu'est-ce qui pourrait se passer?
Une incompréhension de message. Ouais. Vous déroutez quelque peu de la ligne. Bon, alors, l'espace aérien, proprement dit, il est encore un peu loin, hein, quand même. Hein, il n'est pas tout près, mais je veux dire, des avions peuvent subitement... Ouais. Et je n'écarte pas non plus l'idée de pilotes chinois... Mmh. Qui emprunte une mission nationaliste extrême.
Dire un individualisme patriotique venu de la République populaire.
Une initiative individuelle.
Exactement, ferait quelque chose, une erreur, et ferait une catastrophe, quoi.
Alice Ekman, est-ce qu'on peut rappeler quand même brièvement les liens entre la Chine et l'île de Taïwan, qui est à peu près la surface de la Belgique et qui comporte 23 millions d'habitants, qui a été colonisée par les Hollandais. Ensuite, il y a eu les Chinois, les Mandchous au XVIIe, les Japonais brièvement, et puis les nationalistes de Chiang Kai-shek.
Oui, puis il faut remonter vraiment en 49. Après, on pourrait remonter beaucoup plus tôt, mais il faut remonter en 49. Nationalistes du Kuomintang se sont réfugiés sur l'île de Taïwan.
Pour fuir Mao.
Déclaration, avènement de la République populaire de Chine, donc qui ne reconnaît pas Taïwan. En tout cas, qui considère qu'il n'y a qu'une seule Chine qui inclut Taïwan. À l'inverse, le gouvernement en exil du Kuomintang considère aussi qu'il n'y a qu'une seule Chine, mais ne reconnaît pas la République populaire de Chine. Donc, c'est finalement une division qui a été formalisée par ce qu'on appelle le consensus de 1992. En 92, donc le Kuomintang, qui est toujours un parti à Taïwan, mais qui est davantage, qui a des meilleures relations avec Pékin qu'à l'époque, en tout cas que l'autre parti principal, le DPP.
Le parti nationaliste historique de la Chine, l'autre pouvoir semi-dictatorial ou dictatorial avec le pouvoir
communiste. Exactement, voilà. Souvent, l'élite administrative et politique chinoise de l'époque, avec un grand nombre de diplomates aussi, s'est réfugiée à Taïwan. Et donc, en 92, le Kuomintang et la République populaire de Chine, donc le parti communiste chinois, se sont mis d'accord sur le fait qu'il n'y avait qu'une seule Chine, mais qu'ils étaient en désaccord sur la définition géographique de cette Chine. Aujourd'hui, depuis 2016, le DPP est au pouvoir, donc avec la présidente Tsai Ing-wen, qui ne reconnaît pas...
C'est un parti démocratique.
C'est un pays démocratique. C'est un pays démocratique.
C'est un parti démocratique comme l'est également l'autre. Hein, je veux dire, la Taïwan est une démocratie depuis longtemps. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une divergence sur l'utilisation, la reconnaissance de ce concept de consensus de 92. Parce qu'actuellement, il y a aussi l'émergence d'une identité taïwanaise. Beaucoup de Taïwanais ne se considèrent pas comme chinois, donc il y a à la fois une dimension démographique. D'accord. Et aujourd'hui, donc depuis 2016, il y a le DPP qui est au pouvoir, qui n'est pas vraiment un parti indépendantiste. C'est pas un parti qui a proclamé une indépendance, mais c'est un parti qui s'entend moins bien avec Pékin, pour faire simple et pédagogique, que le Kuomintang. Et donc aujourd'hui, Tsai Ing-wen au pouvoir a été réélu pour 4 ans jusqu'à 2024.
On va le voir avec son portrait dans un instant, mais une question à Antoine Bondaz.
Antoine Bondaz, Il y a des interpénétrations entre les deux sociétés. Il y a le pouvoir chinois à Pékin qui dit qu'il veut récupérer Taïwan, mais en même temps, il y a des étudiants taïwanais en Chine continentale, et vice-versa. Quelle est la réalité des rapports entre les deux Chines ? L'agressivité rhétorique ou des sociétés où on se connaît, où les familles se rencontrent ?
Alors que pour que les Français comprennent, c'est un peu du... En même temps, il y a à la fois une opposition politique de plus en plus forte, notamment depuis 2016, elle arrive au pouvoir du DPP, donc de la présidente Tsai Ing-wen, et de fait des interconnexions, voire même une interdépendance entre Taïwan et la Chine. Une interdépendance sur le plan économique, quasiment un quart du commerce extérieur de Taïwan se fait avec la Chine. Il est d'ailleurs largement excédentaire au bénéfice des Taïwanais. Vous avez des centaines de milliers de Taïwanais qui vivent et qui travaillent en Chine, notamment qui, à partir des années 90, suite au massacre de Tiananmen, ont été ceux qui ont investi quand les Occidentaux n'investissaient pas encore en Chine. Et donc, dans le sud du pays, de Canton, dans le Fujian...
En bonne entente avec le reste de la population, avec le
population. En bonne entente, etc. Vous aviez des millions de touristes chinois qui se rendaient chaque année à Taïwan à la fin, enfin, au début des années 2010 jusqu'en 2017. Donc, une interpénétration avec aujourd'hui, par contre, des problèmes de plus en plus visibles de coexistence, entre guillemets, entre les deux, et des ambitions, encore une fois, et des prétentions chinoises qui ne cessent de se renforcer, il faut être très clair. Aujourd'hui, Taïwan, les Taïwanais n'ont aucune ambition sur la Chine, n'ont aucune ambition d'imposer leur mode de vie aux Chinois. Or, ce n'est pas le cas dans l'autre sens.
C'est aujourd'hui très important pour Pékin de récupérer, entre guillemets, parce que récupérer toute cette histoire compliquée. Pourquoi est-ce que c'est si important pour Pékin de remettre la main sur Taïwan, Dorian ?
C'est fondamental. C'est, je pense, l'objectif majeur qui dépasse tous les autres objectifs politiques, économiques, internationaux de Pékin aujourd'hui et de Xi Jinping en particulier, après avoir récupéré Macao en 99, Hong Kong en 97, mais qui étaient deux colonies.
Deux situations différentes.
Deux colonies étrangères. Enfin, c'était portugais, britannique. C'était pas du tout pareil. Bon, on voit ce qu'ils ont fait avec Hong Kong, avec un pays de système. Ce qui était dans le reportage, c'est qu'ils veulent appliquer la même chose à Taïwan. Mais pour la Chine, pour Xi Jinping, on doit réunifier. Ce qui, à mon avis, est légèrement impropre parce que, historiquement, on peut débattre de l'idée de l'unification passée.
Il n'y a eu que 10 années de souveraineté pleine et entière de la Chine continentale sur Taïwan, et c'était au 19e siècle.
Si 95. C'était l'Empire Mandchou, c'était les Mandchous, c'était même pas des...
C'était pas des
Ming, des Han. Mais c'est aussi c'est un peu toute cette illusion-là. Mais pour lui, c'est ça où quelque part, on peut quand même craindre des choses qui ne seraient pas très jolies pour la paix dans la région. C'est que cet objectif-là, si la Chine venait à diminuer son potentiel économique, si l'économie chinoise baisse, si les choses vont moins bien pour la Chine, moi, je crains plus ce genre de dérapage ou d'action volontaire de Xi Jinping pour détourner aussi l'attention et rassembler le peuple derrière une cause commune.
Antoine Bondaz, l'armée chinoise se modernise, elle a des bateaux de débarquement. Y a-t-il une chance pour l'armée taïwanaise de repousser une éventuelle invasion chinoise que beaucoup de diplomates prennent très au sérieux dans un avenir proche ?
Alors, depuis 30 ans, l'ensemble de la modernisation des capacités militaires chinoises vise, de fait, Taïwan, et potentiellement, en cas de conflit, à reprendre Taïwan. Alors, la Chine développe des capacités, et à l'horizon de 5, 10, 15 ans, si la Chine veut de fait prendre Taïwan de force, elle y arrivera, entre guillemets. La vraie question qui se pose, c'est quel est le coût d'une telle opération militaire ? Et aujourd'hui, la stratégie de Taïwan, c'est de rendre le coût de cette conquête de Taïwan par la Chine beaucoup trop prohibitif. Donc, ils peuvent potentiellement atteindre des objectifs militaires dans l'horizon 10-15 ans, mais la question, c'est quel est le coût en termes de pertes humaines côté chinoise, en termes de destruction de l'image, entre guillemets, de la Chine sur la scène internationale.
Quand même d'un pays qui a mis 1 million de Ouïghours dans des camps, et j'en passe, qu'est-ce qui les arrêterait ?
Alors, ce qui les arrêterait, c'est le coût, encore une fois, de l'opération militaire. C'est le fait que Taïwan a des capacités de défense, des capacités antimissiles, surtout anti-navires. Mm-hmm. Et qu'aujourd'hui, encore une fois, le rapport de force, même s'il est de plus en plus favorable à la Chine, n'est pas encore aujourd'hui complètement défavorable, entre guillemets, à Taïwan. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a aussi des questions au-delà de militaires, des questions de société. Mm-hmm. Aujourd'hui, une stratégie de Taïwan, c'est de se rendre indigestible, entre guillemets, auprès de la société chinoise. Et ce qui est très important, juste un point, Taïwan, c'est aussi un contre-modèle. c'est une société de culture chinoise qui s'est démocratisée d'elle-même, non pas par une intervention étrangère, d'elle-même. Et ça, pour le Parti communiste, c'est entre guillemets un némésis.
C'est insupportable.
Jusqu'où le soutien américain peut-il aller? Il y a un pacte, le pacte de 79. Oui, qu'est-ce qu'il prévoit?
Voilà, il y a le Taiwan Relation Act de 1979 qui prévoit que l'État américain doit soutenir Taïwan dans ses capacités de défense, en substance.
Ça veut dire quoi, soutenir?
Voilà, c'est-à-dire à vendre des armes, hein, pour pouvoir développer ses capacités militaires en cas
vendre
de.
Vendre des armes, c'est une chose, envoyer des hommes et
voilà,
donc, revenir des body bags.
C'est d'accord. Ne stipule pas, cet accord ne précise pas ce que feraient les États-Unis en cas d'attaque. Mais de fait, surtout depuis l'administration Trump, les États-Unis ont renouvelé leur soutien au-delà des ventes d'armement. Bah, Donald Trump a félicité la présidente Tsai Ing-wen, donc l'utilisation du mot déjà est très symbolique et très fort. Ouais. Il y a eu la vente d'armes. Il y a eu aussi un accord pour autoriser les visites officielles à haut niveau. Donc il y a entre Washington et Taipei. Donc il y a différents signaux qui se sont prolongés sous l'administration Biden. Ouais. Il y a eu encore des passages de la Navy à proximité de Taïwan. Et puis il y a cette fuite, on pourrait dire, demi-fuite, qui indique bien que les États-Unis soutiennent Taïwan. Et puis il n'y a pas vraiment de débat sur cette question aujourd'hui entre démocrates et républicains.
Ça fait consensus.
Dans un contexte où il y a quand même un relatif consensus bipartisan sur le fait que la République populaire de Chine est devenue une menace, pas uniquement une menace militaire dans la région, mais aussi une menace par rapport aux démocraties. Ah. Et donc on est aussi rentré avec le conflit, les tensions entre Taïwan, dans une rivalité idéologique qui n'est pas propre à Taïwan, mais qui se concentre particulièrement sur cette point de tension. Et ce qui est intéressant, c'est que la présidente Tsai Ing-wen elle-même dit que Taïwan est à la ligne de front des démocraties et qu'en cas d'attaque, ce serait un coup majeur porté aux démocraties dans le monde.
Et un effet domino pour toutes les autres.
Et c'est vrai que ce discours était porté depuis longtemps, même par le Kuomintang dans le monde, mais il était assez inaudible parce qu'on n'était pas encore dans une compétition idéologique entre Washington et Pékin. Mais aujourd'hui, nous y sommes pleinement avec Joe Biden qui appelle au sommet des démocraties, etc.
Très
et
bien.
Donc ce discours-là alimente finalement la. On va dire avec des camps qui se.
Je vous coupe, Alice Ekman.
La question se posera et se posera-t-il de savoir s'il faut mourir ou risquer nos vies pour Taïwan, pour un idéal supérieur à notre sécurité immédiate?
Très honnêtement, je ne sais pas si elle se posera pour les Européens. Ce qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas l'intervention des Européens en cas de conflit. Les capacités militaires européennes et des différents États membres sont extrêmement faibles. Et à part la France, quasiment personne ne peut déployer des forces aussi loin. La question qui se pose, c'est que peuvent faire les Européens pour dissuader?
Reconnaître Taïwan ?
Non, aujourd'hui c'est un non-débat, il faut être très clair. C'est un non-débat. La question, il y a des coopérations de fait, il y a des diplomates. On voyait la 101, ce gratte-ciel à Taïwan. Il y a des diplomates français qui y sont, qui gèrent un bureau.
Il
n'y aura pas de relations diplomatiques, c'est un faux débat.
Et il n'y aura pas d'ambassade en France de Taïwan. Il y aura juste un bureau de Taïwan.
De la même façon que cette visite des sénateurs n'est pas une visite du gouvernement français, c'est le pouvoir législatif et une séparation des pouvoirs, c'est très clair. Là encore une fois, les Européens ont un rôle à jouer pour dissuader la Chine et pour prévenir un conflit, il est temps que les Européens fassent peut-être un peu plus.
Mais Dorian Malovic, pour dissuader, est-ce qu'il ne faudrait pas affirmer que Taïwan, c'est nous, au sens des valeurs, comme le dit la présidente taïwanaise?
Moi, je pense qu'on peut s'associer. Je veux dire, le discours d'Alain Richard, moi, je trouve que c'est très subtil parce que ça répond à la rhétorique des diplomates loups-guerriers qu'on entend en permanence en train de dire « vous violez la souveraineté chinoise, vous nous insultez », etc. Et on peut répondre tout simplement par des petits mots qui font mouche. Et s'ils sont répétés par les sénateurs de tous les pays d'Europe, enfin, en gros, hein, mais les parlementaires aussi, c'est ce que vous dites tout le temps dans vos interventions, c'est que il s'agit simplement dans la symbolique de se positionner, même verbalement, et c'est très important pour la Chine.
Moi, j'analyse. Ce qui est sûr, c'est que la Chine, aujourd'hui, est entrée dans la promotion de son modèle. Depuis Xi Jinping.
Promotion agressive.
Promotion, on va dire, avec.
Hégémonique.
Non, mais déjà, c'est intéressant de noter l'objectif. C'est-à-dire qu'avant, elle n'avait pas cet objectif-là. Déjà, elle a la volonté de promouvoir un système de gouvernance alternatif à celui de démocratie. Ça, c'est à noter parce qu'il ne faut pas sous-estimer cette détermination à promouvoir cet objectif.
D'accord.
Par différents biais, vous en avez mentionné certains, il y en a d'autres, la formation des fonctionnaires de certains pays émergents.
Diffusion de fake news.
La désinformation. Après, des outils qui sont aussi utilisés par la Russie, le renforcement de la coopération entre Moscou et Pékin, mais surtout une très forte détermination sous Xi Jinping, basée sur la perception que pendant trop longtemps, la Chine a accepté des valeurs et des idéaux qui n'étaient pas les leurs, et que maintenant, non seulement il faut contre-attaquer, mais il faut riposter son corps, un contre-récit. Et donc, on est entré dans une guerre de communication depuis déjà plusieurs années.